Ils ne viennent pas? Marie-Laure, Gemina et Laetitia, mais aussi Agnès, Laetitia, Hamza, Marlène et Hamza. Voilà. Ils sont tous là. C'est un bon début. Il manque une chaise, par contre. Il faut rajouter une chaise. Alors, vous avez bien compris qu'ici, aux universités populaires de Paran, faire de la recherche, c'est sympa, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif qu'on a, que vous avez, c'est de changer le monde. C'est ça que vous m'avez dit. Enfin, en tout cas, moi, c'est ça que j'ai compris. Et pour ça, il y a besoin de faire d'autres choses que la simple recherche. Non. Les prédécesseurs ont un peu ouvert le jeu, mais là, cette fois-ci, on va rentrer dans le concret. On va rentrer dans ce qu'on appelle les actions citoyennes. Les actions citoyennes qui s'inscrivent dans le cadre de la démarche. Et donc, pour en parler, nous avons trois parents qui en ont fait, les actions citoyennes, ou qui, compte tenu du Covid, ont souhaité en faire et vont se lancer dans des actions. Donc, on va parler de ce qui a déjà été un peu fait, et puis de ce qui a été, et des grandes perspectives qui s'ouvrent à elles. Et puis aussi, on va interpeller les institutions, celles qui ont accompagné les démarches, et puis celles qui, de plus loin, ont aussi envie de faire des choses avec les parents pour changer le monde. Donc on va tout d'abord faire une présentation rapide peut-être de chaque personne autour de la table. Donc si vous voulez bien passer votre micro les uns après les autres pour vous dire le prénom, votre ville et puis peut-être votre sujet de recherche pour ceux qui ont cherché, puis votre institution et votre travail là où vous êtes. On va commencer par un bout de table. Agnès.
Oui. Agnès, je suis assistante sociale de formation et formatrice à Ocelia, qui est une école en travail social qui est basée à Lyon et Chirol et Valence.
Bonjour à tous, Laetitia Dumoulin, coordonnatrice du réseau Parentalité 62 sur le territoire du Calaisis.
Bonjour, Laetitia, UPP de Marc.
Et tu as travaillé sur quel sujet ?
Sur le handicap.
Merci. Marie-Laure. Deux micros pour Marie-Laure.
Alors, Marie-Laure, UPP Paris, et le thème de notre recherche est sur la réussite et l'épanouissement de nos enfants.
Gemina, UPP des Chirols. Le thème abordé, c'était l'épanouissement des enfants et la coéducation, la relation famille-école.
Merci.
Donc, bonjour, Marlène, de la Caisse d'allocation familiale de Lisière. On a accompagné l'UPP des Chirols. Je suis conseillère technique parentalité.
Bonjour à tous, monsieur Lacouzé Hamza, donc directeur de l'éducation et de l'enfance au niveau de la ville des Mureaux et en parallèle chef de file de la cité éducative sur le territoire des Mureaux.
Merci à tous pour cette présentation. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On va se dire, mais qu'est-ce que c'est une action citoyenne ?
Alors, les actions citoyennes, on en a un petit peu parlé ce matin lors des différentes présentations et puis aussi avec Monsieur Paquet. Alors nos actions citoyennes qui sont vraiment spécifiques des UPP, c'est dans ces actions citoyennes, les parents vont à la rencontre des institutions. C'est, on essaye de rencontrer les institutions pour que nous, parents, on comprenne mieux les institutions et puis pour qu'on change un peu notre vision des institutions. Et on aimerait que ce soit réciproque, que les institutions aussi comprennent mieux les parents. Le but étant quand même de monter des projets ensemble.
Très bien, c'est clair, non ? Hein ? Ça va ? On peut continuer. Alors donc, du coup, on va maintenant passer aux exemples concrets. Donc vous allez nous expliquer, d'abord donc toutes les trois, quels sont finalement le déroulé des actions citoyennes dans le cadre d'un projet, comment les choses se sont passées jusqu'à aujourd'hui au moins. Pour démarrer. Alors, c'est Laetitia peut-être qui démarre.
Alors nous, dans l'année 2018, on a été invités par l'AFAPI de Coulogne grâce à Laetitia qui a fait notre pub. Et en fait, on était invités à un comité de pilotage pour préparer une journée d'études sur le handicap Mais malheureusement, le Covid a stoppé un petit peu le projet. Donc, mais sinon, on était invités et on aurait pu aider les parents sur le thème du handicap et leur présenter la recherche.
Alors, ce projet-là, donc, il est né, c'était donc une de vos actions citoyennes, il est né dans quel cadre ? Comment les choses se sont passées comment elles ont démarré ?
En fait, la FAPEI de Coulogne voulait faire une journée sur le thème du handicap. Et Laetitia faisait partie du début du comité de pilotage et elle a parlé de nous. Et pour eux, c'était intéressant d'avoir des parents dans le comité pour avoir leur avis et donner leur façon de faire. Quoi.
D'accord. Donc ça a été ce qu'on appelle un développement de votre comité de pilotage.
Oui.
Dans ce comité de pilotage, quels étaient les acteurs qui étaient...
Alors, il y avait le réseau Parentalité 62, il y avait des directeurs d'AFAPI, il y avait également le CAMS, tous les partenaires sur le thème du handicap.
D'accord. Très bien. Merci, merci Laetitia. Peut-être que Jimina, tu peux compléter et dire comment ça s'est passé à Échirolles.
Oui, donc à Échirolles, malheureusement, la crise sanitaire nous a beaucoup handicapés, on va dire, par rapport à ça, parce qu'on était lancés dans beaucoup d'actions. On a investi tous les temps forts qui portaient par la ville d'Échirolles, justement pour faire connaître le projet UPP. Mais donc, par rapport à ça, on a dû s'adapter, hein, comme tous. Et principalement, donc, lors de comités de suivi, qui ont lieu une fois par an, donc, pour... dérouler un peu les étapes de notre avancée au niveau de la recherche. Nous avons donc invité beaucoup de partenaires à participer à ces comités de suivi, notamment la CAF de l'Isère, la ville, les associations en soutien à la parentalité, le CCAS aussi de la ville. Et nous avons donc été invités à chaque quinzaine de la parentalité. C'est une action qui est portée donc par la CAF de l'Isère au niveau départemental, dans laquelle il y a des actions en lien sur des thématiques autour de la parentalité. Et donc l'UPP est invité et s'inscrit donc dans la programmation de ces temps forts pour justement valoriser le projet UPP, aller à la rencontre d'autres parents et en même temps essayer de collaborer en fait avec les actions sur les mêmes valeurs que la CAF, puisque la Caisse d'allocation familiale partage bien sûr les mêmes valeurs que ce que les UPP sur lesquelles les UPP travaillent. Et donc, en même temps, on essaye de changer en même temps nos postures pour réajuster un petit peu les actions, peut-être, pour essayer de travailler différemment.
Je te vois questionner doucement ta voisine. Hein.
Sans ambition aucune.
Tu veux la faire réagir tout de suite ? Est-ce que vous... Allez-y, voilà.
Oui, la réaction... Oui, non, mais on partage en effet, à la base, la Caisse d'allocation familiale soutient l'UPP de manière financière, puisqu'ils ont répondu à un appel à projet du RIAP. Et en fait, d'être invité au comité de suivi annuellement, plus d'autres temps qu'on peut avoir, oui, c'est tout à fait des objectifs, des actions faites par des parents pour des parents. On ne pouvait pas être là, enfin, en tout cas en tant que professionnel. Et puis de ce qu'on veut amener auprès des parents et des actions de parentalité, quoi.
Vous ne pouvez pas être là ou vous ne pouvez pas être ne pas être là.
Ne pas être là, pardon. Ah.
On se demande si c'était un lapsus, donc.
Non, pas du tout. Excusez-moi. Non, on ne pouvait pas ne pas être là. Donc on les soutient depuis le début. Et puis on a fait ils ont organisé le dernier comité de suivi il y a 15 jours, 3 semaines pour pouvoir justement clore cette première étape. Et après, du coup, il va y avoir la suite de la collaboration avec toutes les idées qu'ils ont à mettre en place.
Oui, ça, on va en parler pour la suite. Merci, Laetitia. Marie-Laure, peut-être quelques exemples d'action citoyenne dans le cadre de votre action sur Paris.
C'est vrai que, comme dans beaucoup d'UPP, les actions citoyennes commencent souvent par les comités, quand on rencontre les partenaires du territoire. Nous, au départ, c'était pour présenter notre recherche. Et puis, petit à petit, on a créé des liens. C'est vrai qu'il y avait nos partenaires locaux, il y avait des partenaires de l'éducation. Nous, on voyait vraiment notre posture qui changeait. Au départ, on était juste dans une posture où on leur présentait. Puis, petit à petit, on est devenus des partenaires et on montait des projets ensemble. Et pour nous, c'était important parce qu'on prenait confiance en nous et puis on créait un lien avec eux. Et c'était intéressant de voir qu'on rencontrait souvent des personnes qui, dès le début, étaient intéressées et continuaient et avaient envie d'être à nos côtés pour l'aventure. Et puis, un jour, on a été invités... Il y avait la chargée de développement local de notre territoire qui organisait des temps de formation. Et donc nous, on a pu participer à une formation, c'était dans l'accueil de la petite enfance, des professionnels qui étaient formés pour comment accueillir les parents. Donc nous, on était là, et on était là en tant que parents, on a suivi la formation. Donc on était tous les deux, on était tous à apprendre ensemble, et après on était là dans un dialogue où tout de suite ils avaient l'expertise des parents. Et là, on était vraiment avec eux, et après, on avait envie de continuer les projets ensemble. Ça s'est un peu arrêté avec le confinement. Mais l'énergie et la volonté de ces personnes qui nous suivaient depuis le début, c'est super encourageant parce qu'on est vraiment ensemble dans ces moments-là.
Ce que j'ai compris dans cette expérience, c'est que finalement, vous êtes presque, par certains côtés, devenus non plus des parents chercheurs, mais aussi des parents formateurs. Est-ce que c'est le terme que vous employez ou est-ce qu'on en dit trop là, en disant ça ?
Oui, je pense que dans cette expérience, c'était plutôt des parents experts ou en tout cas des parents qui avaient envie de parler de la même façon. On avait chopé cette horizontalité dont on parle. Formateur, moi, je vois plutôt ça dans les autres expériences qu'on a pu vivre quand d'autres UPP interviennent dans les écoles ou des choses comme ça. Là, on était plutôt dans du dialogue. Et vraiment envie de s'approprier le territoire ensemble, en fait. C'est ce qu'on ressent vraiment sur notre territoire.
Merci Marie-Laure. Alors ça, c'est comme vous l'avez pu le constater presque partout dans les UPP, c'est vrai que ces deux dernières années ont été pas très favorables au développement de nos actions citoyennes. Mais en revanche, les idées ont germé. Donc on est plutôt maintenant, on va se tourner vers les perspectives que nos trois UPP ont en tête. Donc, est-ce que vous pouvez en dire quelques mots, donc suite à vos différents comités de suivi qui ont un peu abouti, où est-ce que vous en êtes et comment vous vous projetez vers le futur maintenant ? Jemina, je vois que tu as pris le micro, vas-y. Normalement, c'était Laetitia, hein, la première,
oui,
mais c'est pas grave.
Je vais laisser la parole à Laetitia.
Vas-y. Vas-y, Jemina.
Donc, nous, on a beaucoup de perspectives. Donc, on a déjà commencé par... Créer donc l'association UPP Chirol qui va permettre de pérenniser justement l'UPP à l'issue donc de la fin de cette recherche.
Ça c'est une pratique très fréquente dans les UPP de créer une association après ?
Oui, parce qu'on a envie de continuer. Ah. On n'a pas envie que ça s'arrête et puis on a plein de choses encore à faire sur les territoires. Oui. On a aussi, lors du dernier comité de suivi, on a suscité encore plus d'intérêt. Les partenaires nous ont vraiment réitéré leur confiance et vraiment ils ont envie de collaborer, de vraiment être de réels partenaires avec nous les parents pour pouvoir travailler dans des pratiques différentes. Ça a changé vraiment, ça a fait bouger des choses en tout cas.
Ça a fait bouger les choses.
Oui.
Quelque part, ils ont envie que vous fassiez leur boulot, non ? C'est pas ça, non ? Excusez-moi, c'était pas prévu ça, la tête question. Mais c'est pas ça, hein.
Oui, bien sûr. C'est un souhait, je pense, partagé, ouais. Et par les institutions et par les parents.
On va faire répondre Laetitia à côté, Marlène à côté de toi.
Hein, pas faire à la place d'eux, mais faire avec. Ben voilà. Et en effet, ça donne matière. Voilà. C'est vrai que quand ils nous ont exposé leur à un comité de suivi leur étude, question de recherche. C'est vrai que nous, on était les premiers à dire on attend le résultat, en effet, pour pouvoir rebondir et pour pouvoir adapter, pourquoi pas, des appels à projets. Je parle pour la CAF. Mais voilà, ça peut donner. Et puis travailler avec des institutions aussi que nous, par exemple, l'éducation nationale, où on a des relations, où ça peut aussi déclencher des choses derrière.
Merci.
Voilà, toujours dans la lancée, hein, puisqu'on a plein de choses à faire. On a aussi suscité l'intérêt du CCAS de la ville, oui, qui donc nous a sollicité pour... alors, moi, j'ai la particularité de faire partie donc, du CNLE, qui est le Comité national de lutte contre l'exclusion, dans lequel on aborde des thématiques en lien avec la pauvreté. Et donc, le CCAS va se saisir, en fait, de ces expériences de terrain, de ces témoignages au sein des UPP, puisqu'on a aussi le témoignage de parents dans les UPP, qui va nous permettre aussi de travailler ensemble avec le CCAS pour avoir aussi peut-être un changement de posture aussi avec ces institutions-là. En tout cas, c'est ce qu'ils souhaitent. Nous avons aussi, pas que les parents, mais les enfants, donc un beau projet aussi qui est prévu. C'est-à-dire, on va faire intervenir en fait les enfants de l'UPP des Chirolles, en fait, qui ont travaillé avec un outil, le PowerPoint, et qui ont donc fait leur propre recherche de leur regard. Donc ils vont présenter ça à leurs institutrices au départ, et puis peut-être après ce sera un outil qui sera partagé par tous. Donc c'est vraiment la recherche des Chirolles vue par le regard des enfants. C'est quelque chose de vraiment formidable. Nous-mêmes, en tant que parents, on a été émerveillés du résultat. Donc c'est quelque chose qu'on va aussi... exploiter. Dans d'autres perspectives, on a un colloque aussi départemental qu'on va préparer aussi avec les institutions, où là, ben, on va restituer notre recherche et en même temps, ben, ça se construit ensemble avec les institutions pour justement toujours mettre en avant cette coéducation tant souhaitée pour qu'elle puisse être justement revue, si c'est bien le mot juste, par tous.
Voilà, réajuster, vous avez dit souvent.
Réajuster, si je peux me permettre, voilà. Et plein d'autres perspectives encore.
Merci, Jemina.
Merci.
Laetitia, peut-être sur le Pas-de-Calais. Alors, qu'est-ce que vous allez faire de beau à Marc, Marc en Calaisie?
Alors, à Marc, il y a un projet de Handitech. En fait, c'est une ludothèque adaptée qui permettra aux enfants et aux parents et aux enfants en situation de handicap d'avoir un lieu de ressources grâce au partage, à la complicité et à l'apprentissage grâce à des jeux adaptés aux enfants en situation de handicap.
Et comment vous avez, quels sont les partenaires que vous avez réussi à mettre en mouvement pour ça?
Alors déjà, la ludothèque qui est située juste à côté du centre social Cousteau à Marc appartient à la mairie de Marc. Et en fait... ils sont partenaires du projet ainsi qu'un IME et l'APF, l'Association des Paralysés de France et France Handicap, oui, et des parents d'enfants en situation de handicap ne faisant pas non plus partie des UPP.
D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses à mentionner dans les perspectives? Peut-être tu peux passer la parole à Laetitia à côté. Qu'est-ce que tu as retenu, Laetitia, de tout ce qui a été sorti du comité de suivi la dernière fois?
Alors, nous, prochainement, on a la semaine de la parentalité dans une quinzaine de jours, donc c'est la 6e édition. Et donc, les parents vont restituer leurs recherches voilà, dans une quinzaine de jours. Donc, il y a pas mal d'acteurs qui seront présents. Enfin, cette recherche, je pense qu'elle est attendue, en fait, sur le territoire. Parce que c'est vrai que depuis, en fait, on tient en haleine les acteurs depuis un bon nombre d'années. C'est vrai qu'on a invité plusieurs fois les mamans à venir un peu présenter les points d'étape où elles en étaient, en fait, dans les comités locaux. Donc, c'est vrai que je pense que les acteurs sont impatients, en fait, de voir les résultats de la recherche et puis peut-être, du coup, les inviter à construire des choses ensemble.
D'accord. Donc, on attend ça encore d'ici 15 jours. On va passer peut-être la parole à Marie-Laure maintenant sur la partie parisienne, les perspectives. Vous en êtes...
Nos perspectives, nous, pour l'instant, elles sont en balbutiement, mais on a des pistes, on a des envies. Et en fait, chaque rencontre avec les acteurs du territoire lors de restitution nous donne envie de continuer. On aimerait bien pouvoir rentrer dans les écoles autrement. Ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et par exemple, lors de la dernière restitution, nous, on travaille sur la réussite, l'épanouissement. Alors, on a restitué notre recherche et il y a des parents qui viennent nous voir, qui nous disent, ben voilà, moi, je suis en contact avec des parents qui ont besoin de soutien scolaire pour leurs enfants, mais qui n'arrivent pas à trouver les structures qu'il leur faut. Alors, vous allez leur faire du soutien scolaire ? Parce que vous prenez le lien de bienveillance. Et nous, on dit, non, nous, on ne va pas faire du soutien scolaire, on ne va pas venir à la place des instituts. Enfin, avec ce qui, sur le terrain, il y a déjà plein de choses. Mais par contre, nous, on considère que le lien de confiance est important et que vous, en tant que parent, vous pouvez donner confiance à votre enfant. Il faut que l'enfant, s'il doit aller au soutien scolaire, il y aille en toute confiance. Et puis, il faut aussi que vous, maman, vous ne dites pas, moi, je n'ai rien à leur apporter, j'ai besoin du soutien scolaire parce que moi, je ne peux pas leur apporter. Vous avez sûrement des choses à apporter. Nous, on est là pour que, on leur dise, il existe des structures, on peut vous aider à les trouver, mais surtout, on peut aussi vous aider à apporter quelque chose à votre enfant. Et puis, voilà. Donc, nous, entrer dans les écoles, c'est pour que nous, on y entre, mais aussi dire qu'il y a d'autres personnes qui peuvent y entrer et que nous, on va les aider aussi à entrer. Voilà, c'était un peu ça, nos perspectives. Et puis, voilà, ça peut être...
En préparation, tu m'as parlé de jeux éducatifs que vous avez fait déjà un petit peu et que vous espérez pouvoir continuer.
Voilà, alors effectivement, nous, on a eu l'occasion de pouvoir faire des jeux coopératifs dans les écoles. Ça nous a vraiment aidé à changer notre regard sur les enseignants parce qu'il fallait gérer un groupe d'enfants. Ça nous a beaucoup aidé. Et donc, on se dit que, en continuant sur cette logique, en pouvant le faire à plusieurs, le faire avec d'autres personnes qui ont envie d'aller dans cette démarche, ça peut être une entrée et ça nous plairait.
Donc, en faisant ça, à la fois, ça vous permet de rentrer et en même temps, ça vous fait comprendre un peu mieux la difficulté d'être enseignant aujourd'hui, c'est ça ?
Ah ben, oui. De toute façon, c'est de partager. Hein, donc, on est prêt à essayer de se comprendre tous. Oui.
Et donc, on voit bien ici à l'œuvre le croisement de regards qui permet de mieux comprendre l'autre. Donc, vous avez mieux compris les enseignants. Est-ce que les enseignants vous ont mieux compris ?
Alors, oui. Ben, en fait, ça aussi, c'est les actions citoyennes qui nous permettent de pouvoir dire oui, comme ça. Parce que au départ, nous, on était lors des restitutions, on a toujours un dialogue. Et là, la dernière restitution, c'était assez impressionnant parce que, il y a toujours une ou deux questions d'habitude dans la salle. Là, je pense qu'il n'y avait pas une personne qui n'a pas levé le doigt parce qu'ils avaient des choses à nous dire. Et c'était un peu, les professionnels, par exemple, c'était nous, en tant qu'enseignants, quand on met en place l'accueil des parents, nous aussi, on reprend les notions des UPP, en fait. Nous, maintenant, ça fait partie de nos ressources, en fait, ce que les parents des UPP nous ont appris depuis plusieurs générations. Et donc, maintenant, on s'en sert. Et donc, quand les UPP font une restitution, alors qu'on est en pleine pandémie de Covid, on vient parce qu'on a envie de se nourrir avec ce que vous allez nous proposer. Et puis, de pouvoir s'en servir dans notre quotidien avec les parents. Donc, nous, on rencontre des professionnels cette petite étincelle que nous aussi on a dans les yeux. Voilà.
Super, merci. Alors, comme pour les autres tables rondes, la question avant d'interpeller nos institutionnels qui sont auprès de nous, auprès des parents, qu'est-ce que ça vous a apporté, ces actions citoyennes ? On a parlé de l'UBP en général, on a parlé de la recherche, là, plus précisément, ces actions citoyennes que vous avez pu mener ou que vous êtes en train de mener ou que vous avez la perspective de réaliser. Qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement ? Jemina, peut-être.
Alors, concrètement, ça a apporté beaucoup, bien sûr. Ça nous a valorisés en tant que parents, en tant que collectif. On a beaucoup employé le mot légitimité. Et il a vraiment toute sa place, puisque maintenant, on est vraiment reconnus. On s'est aperçu justement de cette évolution. C'est-à-dire qu'au départ, on y est allé un petit peu à tatillon. Qu'est-ce que c'est que ce projet ? Qu'est-ce que ça va donner sur le territoire ? Et là, on sent vraiment que les institutions sont vraiment confiantes et ont envie de travailler avec nous, de partager notre démarche, nos savoir-faire pour faire justement pas pour les parents, mais avec les parents. Et ça, c'est quelque chose de très fort qu'on ressent vraiment à tous les niveaux.
Donc c'est à la fois pour soi, mais c'est aussi dans ce que vous voyez autour de vous.
C'est vraiment autour de nous, oui. Et ça donne envie à d'autres parents justement d'intégrer les UPP. Et j'ai envie de dire aussi, on a eu l'opportunité aussi dans une action citoyenne d'aller au devant d'autres parents à Guignon, que je remercie aujourd'hui d'être là. On s'est fait ambassadeur un petit peu de ce projet. Ils ont beaucoup accroché. Il y a des belles perspectives d'échange donc à développer. Et donc, ça donne vraiment envie à d'autres parents de devenir comme nous, au départ des parents, parents chercheurs et parents formateurs, et ambassadeurs aussi.
Donc, si j'ai bien compris, Guignon, ça sera le germe de la cinquième génération, c'est ça ? Bravo. Laetitia, peut-être ?
Alors moi, personnellement, le fait de faire toutes ces actions citoyennes sur le thème du handicap, ça m'a permis d'avoir un certain apaisement vis-à-vis des institutions. J'étais plus dans le contre, mais avec, parce que je suis maman d'un enfant en situation de handicap. Et j'ai vu qu'en fait, ils avaient les mêmes difficultés que nous, c'est-à-dire des emplois du temps surchargés. Ils avaient forcément aussi des problèmes de moyens financiers, humains. Et qu'en fait, ben, on était tous pareils, quoi. C'était pas faire contre, mais faire ensemble.
Et dans ta préparation, là aussi, tu nous expliquais que finalement, ça avait eu des répercussions, votre travail, sur l'environnement, puisque des choses, vous parlez de la ludothèque qui va devenir adaptée, en tout cas qui va se compléter avec des jouets adaptés, oui. Mais ça va bien au-delà de ça.
Alors, au niveau de la mairie, il y a un chargé de handicap, maintenant. Voilà. Au niveau du centre social Jacques-Yves Cousteau, il y a eu une création de poste sur un référent handicap. Oui. Donc, et également, dans le futur, de l'accueil d'enfants en situation de handicap au sein du centre de loisirs.
Voilà. Donc, on voit que les choses bougent. On a dit au début qu'il fallait changer le monde. Ça change, ça bouge.
Ah ben, on fait tout pour. Hein.
Voilà, on a fait pour. Bravo, bravo à vous. Avant de repasser la parole à Marie-Laure, là, j'ai Mina qui veut rajouter quelque chose.
Ouais, c'était pas du tout préparé, mais là, ça me donne vraiment envie de le dire. C'est-à-dire, par rapport à toutes les recherches qui ont été faites par les UPP, sur tous les territoires, on retrouve un petit peu les mêmes problématiques. Et j'en avais parlé un petit peu avec Laetitia. Et dans le cadre de l'association UPP Chirol, j'aimerais bien justement inviter d'autres UPP à venir justement parler de leurs recherches et surtout des perspectives pour peut-être sur le territoire échirolois faire un peu la même chose sur d'autres communes.
Très bien. Donc, voilà. On continue.
Toujours dans l'intérêt de l'enfant.
La suite pour Marie-Laure. Voilà. Les perspectives. L'apport.
L'apport, et ben c'est vraiment la reprise de confiance avec les institutions, hein, reprendre confiance dans les institutions pour avancer personnellement et puis après pour avancer avec les autres, pour les autres. Et puis ça, c'est vraiment ce qui était moteur dans notre groupe à Paris.
Reprendre, donc c'est l'horizontalité dont on parlait.
Oui, exactement.
C'est ça que vous.
Oui, et puis pas trop s'éloigner des institutions, en fait, pas être, voilà. Et quand on s'est trop éloigné, se dire ben voilà, maintenant c'est plus pour moi. Ben grâce à l'UPP, maintenant on se dit ben non, je vais essayer de mieux les comprendre. Et puis on va essayer de recréer du lien.
Capacité de créer du lien. Très bien, bravo. Alors on va maintenant reposer la question donc à nos deux aux intervenantes de l'Isère et du Pas-de-Calais d'abord, et puis après on élargira sur qu'est-ce que ça produit. Donc on a vu les apports pour les personnes de l'UPP, elles ont déjà évoqué un certain nombre de sujets à l'extérieur, au-delà, mais qu'est-ce que vous diriez-vous de ce que tout ce travail a fait sur les apports des institutions, alors la vôtre et puis celles qui sont autour dans la commune? Laquelle des deux veut commencer? Laetitia, tu veux commencer?
Moi, je dirais que c'est déjà, en fait, permettre aux acteurs, peut-être, alors forcément, il y a le changement de regard vis-à-vis des parents, et ce changement, enfin, de permettre aussi aux acteurs de faire un pas de côté, en fait, et de faire avec et non pas pour, et de co-construire, en fait, ensemble. Moi, je pense que ça peut vraiment aider des acteurs à changer aussi leur pratique professionnelle.
Et est-ce que concrètement, il y a des choses que tu as vues déjà?
Oui, alors, il y avait notamment le fameux colloque en fait, où les mamans étaient conviées. Enfin, elles sont venues à plusieurs comités. Et c'est vrai que c'est dommage. Hein, du coup, voilà, avec la crise sanitaire, il sera reporté ultérieurement. Mais on sent bien que les acteurs ont envie en fait, de faire avec les parents quoi, et d'avoir aussi cette expertise de leur part pour avancer ensemble.
D'accord. Merci Laetitia. Marlène, peut-être ?
Nous, pour, concrètement, on n'a pas eu encore d'effet, on va dire, de ce qui s'est réalisé. C'est surtout dans les perspectives, mais en tout cas, au niveau de la cave de l'Isère, on a bien fait d'y aller, en fait, de les accompagner. Au départ, c'était financier, mais maintenant, c'est pas que. Enfin, au départ, c'était pas que non plus. C'est vraiment, on avance ensemble, on essaye de voir les perspectives. Ils nous apportent leur matière. Et puis on avance ensemble, en effet, depuis ce matin on parle d'horizontalité et c'est tout à fait ça quoi. C'est vraiment voilà, en tant qu'institution, oui, on a l'entrée institution et on apporte notre cadre institutionnel, mais rapidement on l'enlève, enfin perso quand je vais au comité de suivi, j'enlève vite ma casquette et puis on parle voilà, de façon tout à fait commune.
On descend de son piédestal ou on enlève la casquette?
Je perso, je ne suis pas montée sur mon piédestal.
Merci. Dernière question avant de passer aux deux extrémités. Là. Dernière question. Est-ce que dans ce que vous avez vu là, dans ce que vous avez touché de près, là, ces deux expérimentations, qu'est-ce qui vous a le plus marqué et qui a favorisé la participation des parents? Qu'est-ce qui, pour vous, est essentiel dans ce que vous avez vu dans ces trois années-là, qui fait que, qui fait que Jemina et Laetitia sont là aujourd'hui quoi. C'est quoi que vous manquerez?
Vas-y. Vais démarrer. Moi, je dirais que c'est la force du collectif. Hein, c'est vraiment cette cohésion de groupe en fait, entre les parents qui permet aussi d'être dans la durée. En fait. C'est vrai que 4 années, c'est long. Mais voilà, je pense que la cohésion de groupe, la place de chacun et de chacune dans le groupe fait aussi que on y va quoi, enfin on continue.
D'accord. La force du groupe, donc ouais. Ça fait partie des choses essentielles, des valeurs qui avaient été représentées. Marlène, tu veux dire un petit mot sur ça?
Oui, pareil. Hein, on a vu. Enfin, moi j'ai en tête le premier comité de suivi où c'était vraiment des petits balbutiements où limite ils s'excusaient d'être là autour de la table et de présenter leur projet. Ouais. Puis alors le comité de suivi il y a 15 jours, une assurance de dingue avec les PowerPoint, les machins, les films qui passaient, puis de nous présenter leur petit livret qu'ils gardaient sous le coude en nous disant. Ouais. Sur un tour humoristique, vous attendrez le colloque national et on vous le donnera après, quoi. Enfin, voilà. Donc, moi, j'étais là en disant, c'est bon, c'est bingo, quoi. Enfin, voilà.
Et vous, c'est vous qui vous êtes excusé à la fin d'être là? C'est pas vous qui vous êtes excusé à la fin d'être là, quand même?
Non, non.
Bon, tout va bien. Donc, on a bien réussi dans ce cas-là.
Voilà, exactement.
C'est parfait. Merci, Marlène. Alors, maintenant, on va élargir le débat à d'autres initiatives. Donc, on ne va plus parler directement des UPP, même si nos deux intervenants connaissent bien les UPP, mais on va leur poser des questions sur d'autres initiatives dans lesquelles les parents sont partie prenante, ou pas forcément des parents, en tout cas des personnes sont partie prenante avec des professionnels, et donc on va de nouveau leur demander rapidement de nous présenter ce que c'est, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais présenter un peu l'initiative et d'insister sur qu'est-ce qui fait que ces parents s'impliquent, puisque c'est ça qui est en tête derrière tout ce qu'on dit depuis ce matin, comment faire en sorte que les parents s'impliquent vraiment et que ça soit dans la durée et que ça devienne ce qu'on voit là, je veux dire. Donc Agnès, peut-être tu peux dire deux mots de ce que vous faites et de cette question-là.
D'accord, deux mots, ça va être difficile, mais on va essayer. Peut-être juste dire en introduction que la FUPP m'avait invitée en janvier dernier à participer à 3 journées de formation avec les parents sur l'intervention dans les écoles de travail social. Et qu'à cette occasion, j'ai été très impressionnée par la volonté des parents à se former pour pouvoir effectivement intervenir dans les écoles de travail social. Et je crois que ces interventions, c'est vraiment un enjeu et un défi à relever ensemble. Ça ne va pas de soi, il y a des résistances dans les écoles, mais faut y aller. Et donc l'expérience dont je voulais vous parler, c'est une expérience qui est menée et qui a été initiée par des institutions, dont l'école au Célia. Donc c'est intéressant aussi parce que c'est encourageant, il y a quand même des institutions qui ont aussi et qui portent vraiment ce souci de la participation des personnes concernées. Donc au Célia, école de travail social, la Fédération des acteurs de la solidarité et ODENOR, l'Observatoire du non-recours aux droits et aux services, se sont associés pour lancer ce projet de collectif SOIF. C'est un collectif qui associe 4 types d'acteurs avec l'idée de co-construire des interventions dans les écoles de formation, mais aussi en formation continue auprès des travailleurs sociaux. Co-construire, co-intervenir jusqu'à la co-évaluation. C'est vraiment mettre le co à tous les niveaux. Donc les 4 types d'acteurs, ces 4 types d'expertise, ce sont des personnes concernées d'abord. Donc nous travaillons essentiellement sur les questions liées à la grande précarité. Donc ces personnes sont des personnes qui ont vécu la plupart des épisodes de rue et qui partagent dans le collectif leur savoir expérientiel, leur savoir du vécu, comme on dit. On les appelle des personnes ressources. Parce qu'elles-mêmes nous ont dit, vous n'allez pas pendant des années nous appeler personnes accueillies, personnes accompagnées. Donc elles se sont auto-désignées personnes ressources. Et un point important, me semble-t-il, c'est que nous les rémunérons pour le travail auquel nous leur demandons de participer. Donc je n'ai pas le temps de développer, mais je pense que c'est un enjeu important, cette question de la rémunération, comme une reconnaissance aussi du travail effectué. Et qu'il y a un vrai défi aussi à évaluer ce qui relève d'un engagement citoyen bénévole et ce qui relève d'un engagement citoyen, mais à rémunérer. Donc, autres acteurs et autres types d'expertise, ce sont les travailleurs sociaux. Qui travaillent dans des associations, beaucoup centres d'hébergement et de réinsertion sociale, le SAMU social de Lyon aussi. Et donc, ces professionnels viennent participer au collectif. Ils partagent un savoir issu de leur pratique. Des chercheurs, des sociologues pour la plupart, qui travaillent sur les questions liées à la grande précarité et qui donc partagent leur savoir plus théorique, plus académique. Et puis enfin, des formateurs comme moi qui apportent notamment leur savoir pédagogique dont on a besoin pour construire les journées de formation. Voilà, et donc pour chaque journée de formation, on en a 5 différentes actuellement, je vais vite, mais on co-construit, c'est-à-dire qu'on prend plusieurs mois pour échanger sur qu'est-ce qu'on veut transmettre à des futurs travailleurs sociaux. De notre point de vue de personnes connaissant la grande précarité, de professionnels travailleurs sociaux, de chercheurs ou de formateurs. Et ensuite, on co-construit ces journées de formation et on co-intervient. Donc on intervient toujours à 4. Donc ce qui aussi renvoie à des questions de financement et ce n'est pas toujours simple. Notre objectif, ce n'est pas de juxtaposer les savoirs, mais vraiment de montrer aux étudiants la diversité des regards, la complémentarité, de tricoter un peu ces savoirs, ou comme disait Céline ce matin, de les mettre en débat, pour quelque part créer aussi un savoir un peu nouveau. Voilà, on essaye que les étudiants soient co-acteurs, avec des outils pédagogiques participatifs, et on essaye de leur faire toucher du doigt la complexité aussi des situations et la nécessité de ce croisement des différentes expertises.
Et alors, juste la question, fondamental, c'est qu'est-ce qui fait que ces personnes durent ? Parce que tu nous as parlé de rémunération, c'est une chose. Voilà. Je pense qu'aux UPP, on n'est pas rémunéré, à moins qu'il y ait des choses différentes, mais je ne crois pas. Mais en dehors de ça, qu'est-ce qui fait que ces personnes-là s'impliquent et durent dans ce travail-là ?
Alors je crois que c'est exactement, je pense pas que ce soit la rémunération qui soit première, pas du tout, c'est vraiment ce que j'ai entendu depuis ce matin, c'est la confiance en soi, plus d'estime de soi, plus d'assurance, et puis oui, cette impression d'être reconnue, une reconnaissance, et ça c'est fondamental. Quoi.
La reconnaissance, là encore une chose, un mot qu'on n'avait pas entendu encore. En tout cas, que moi, je n'avais pas bien entendu. Merci Agnès. Hamza, pour la mairie des Mureaux. Alors, la mairie des Mureaux, il y avait une UPP, donc, mais on va parler d'autre chose, là, peut-être.
C'est ça, on va parler d'autre chose. Alors, pour commencer, déjà, je tenais à vous féliciter, à vous remercier pour la qualité de vos témoignages et aussi des tables rondes précédentes. Alors, moi, je suis directeur de l'éducation et de l'enfance depuis peu, depuis début juillet. Et auparavant, j'étais chef de service d'un dispositif réussite éducative, et auparavant dans l'éducation spécialisée, et auparavant enseignant au sein de l'éducation nationale, et auparavant animateur, et très engagé au niveau associatif. Pourquoi je vous parle de mon parcours, c'est important, c'est que j'entends souvent, effectivement, une crainte, une colère à l'égard des institutions, qui peut s'entendre parfois, et j'ai entendu quelque chose d'intéressant, c'était de se dire, je ne me rends plus à la mairie parce qu'ils ne me servent à rien ou ils ne répondent jamais à mes demandes. C'est d'essayer de comprendre et d'échanger. Alors, j'ai remarqué plusieurs fois, vous savez, il y a beaucoup de termes, comité de pilotage, groupe opérationnel, etc., etc. Il y a des termes de plus en plus savants, des réunions qui durent 4 heures. Et je ne vous cache pas que parfois, alors soit je me dis la réunion est fructueuse et pour le coup on avance, et parfois, quand la réunion n'est pas fructueuse et ça dure 4 heures, en général, enfin, c'est pas sérieux ce que je vais vous dire, mais je vous cache pas que je m'amuse à essayer de calculer le coût de la réunion, en me disant, voilà, lui il est directeur, il est à temps, lui il est chef de service, il est à temps, et parfois je vous cache pas que ça fait cher. Enfin, je préfère être sincère avec vous. Et je le dis souvent, à l'époque on me disait, c'est pas bien, faut pas dire ça Hamza, c'est que moi je suis pas un carriériste. C'est-à-dire que j'ai entendu quelque chose d'important, c'est que finalement tout ce qui nous unit ici et tout ce qui nous réunit, c'est le bien-être de l'enfant. Et moi, je suis devenu directeur par hasard. Donc à l'époque, comme je disais, je ne suis pas carriériste, on me disait, il ne faut pas que tu dises ça, ce n'est pas bien. Je le suis devenu et je le dois aux parents. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que toute ma carrière, j'ai toujours été en lien avec les parents. Et souvent, lorsque j'étais en réunion avec des institutionnels, ce qui ressortait, c'était souvent la faute des parents. Ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Ou, par exemple, lorsqu'une action ne fonctionne pas ou sert à la mobilisation, c'est les parents qui ne se sont pas mobilisés. Ou lorsque les jeunes n'accrochent pas une action, c'est de la faute des jeunes. On ne va pas se dire, peut-être est-ce qu'on a été bon au niveau de la communication ? Est-ce que finalement le sujet intéressait réellement les parents ? Et donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à batailler, moi en tout cas à mon petit niveau, à la mairie des Mureaux, donc avec ma collègue qui est là, Nathalie Picard, donc chef de service de la parentalité. Et au fur et à mesure, on passe un peu pour des extraterrestres, mais on insiste. Mais pourquoi ? Parce que on le sait, quand on a été de terrain, on le sait que la base, le constat, le minerai, il vient des parents. Il vient des parents, et il vient aussi des personnes de terrain, que ce soit les animateurs, que ce soit les éducateurs spécialisés qui sont au quotidien. Donc c'est pour ça que quand moi, en tout cas, j'ai commencé à prendre des responsabilités, j'ai commencé à associer justement ces techniciens lors de réunions un peu dites stratégiques. Au début, on se regarde un peu, l'éducateur vous dit « je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire ici ». Le directeur en face se dit « tiens, pourquoi il y en a une personne de terrain ?» Donc finalement, tout le monde s'apprivoise un peu. Et en fait, on se rend compte que on peut coopérer ensemble et on peut coopérer de manière très efficace. Et ça a été un peu ce travail-là qui a été fait avec les parents. On s'est rendu compte que quand on les associait, que ça marchait. Accessoirement, oui, ça marche. Ça marche. Et tout à l'heure, je vais commencer par répondre à cette question. Qu'est-ce qui fait que ça marche ? C'est tout simplement cette notion de respect. On se respecte mutuellement. Tout à l'heure, on entendait parler de piédestal. Oui, c'est vrai. Parfois, il y a ce ressenti que certains professionnels vont se mettre sur un piédestal parce que la personne a un café ruisse, un diplôme en ingénierie sociale ou autre. Mais vous avez des gens de terrain qui n'ont pas de Master 2, mais qui ont une expérience, un savoir-être qui vaut beaucoup plus qu'un Master 2. Et en fait, la combinaison de toutes ces compétences et diplômes et appétences font que ça marche. Et sur le territoire des Mureaux, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu l'illustrer. Alors, au-delà de la cité éducative, là où j'en suis le chef de file de par ma fonction, pendant le Covid, par exemple, je sais que pour la plupart d'entre nous, ça a stoppé un peu nos activités. Nous, sur le territoire des Mureaux, ça a été juste une expérience incroyable. Les parents se sont mis à la disposition de la cité. Ils se sont mobilisés avec les institutionnels, avec les associations, et je n'ai jamais vu un élan de solidarité aussi fort que celui-là. Et là, les parents travaillaient avec les techniciens, avec les associatifs, avec les différents cultes, tout le monde s'était mobilisé. Ça, c'était une action. Et ensuite, bien évidemment, le Covid est parti, chasser le naturel, il revient au galop. Donc, il faut toujours travailler là-dessus, travailler sur ce réseau-là. Et donc, sur la cité éducative, c'est vous dire l'importance, en tout cas, nous, sur le territoire des Mureaux, qu'on a décidé de donner aux parents. Il y a eu des enjeux aujourd'hui sur la cité éducative. Le territoire des Mureaux faisait partie des 80 premiers territoires à être labellisés cité éducative. Donc, il y avait des enjeux qui ressortaient à la fois de monsieur le préfet, du directeur académique et de monsieur le maire. Et on a été un peu plus loin. Ça a été sur ce groupe opérationnel, ça a été d'associer l'ensemble du tissu associatif, les différentes institutions, à savoir la communauté urbaine, le département, la CAF, et non pas se dire, voilà, c'est un triportage éducation nationale, ville et État. Mais avec ma collègue, on a été encore plus loin. Ça a été de se dire, on organise un séminaire avec la présence des parents. Et du coup, aujourd'hui, les enjeux qui sont travaillés depuis 2 ans sur le territoire des Mureaux émanent à la fois de l'éducation nationale, de l'État, de la ville, mais du tissu associatif et surtout des parents.
Merci. Merci à tous. Donc, cette séquence a été trop rapide pour tout le monde, mais ce n'est pas grave. On va maintenant passer un petit moment à déjeuner. Je ne suis pas sûr que ça soit arrivé seulement, mais Denis va nous le dire.